Story d'histoire.
Bonjour chers auditeurs et auditrices, et bienvenue dans cette dernière émission de l'année scolaire un peu particulière de Story d'Histoire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous retrouver pour un voyage au cœur de la musique et de son histoire. Nous sommes toujours en compagnie de notre chroniqueur Ahmad. Bonjour Ahmad.
Bonjour Mike.
Mais aujourd'hui, un autre événement rend cette émission encore plus spéciale. Nous accueillons les jeunes chroniqueurs de la radio Déloge qui vont partager avec nous leur découverte sur l'artiste musical qui les a beaucoup marqués. Bonjour à tous.
Bonjour.
Au cours de cette émission, chacun d'entre nous va vous présenter un chanteur ou une chanteuse qui a marqué son époque et laissé une empreinte durable dans l'histoire de la musique. Mais qu'est-ce que la musique, monsieur Guy ?
Alors, premièrement, donc, il faudrait s'intéresser quelques instants à ce qu'est réellement une chanson. Une chanson est une œuvre artistique composée d'un texte et d'une musique étroitement liées l'un à l'autre. Elle peut prendre des formes très variées, comme le rondo, la forme strophique ou encore le lied. Elle appartient également à des genres musicaux très différents. Musique folklorique, variété, jazz, rock, reggae et bien d'autres encore. Une chanson peut être interprétée a cappella, c'est-à-dire sans accompagnement instrumental, ou être jouée avec un ou plusieurs instruments, voire même avec un orchestre entier. Elle peut également être monodique lorsqu'une seule mélodie est chantée, ou polyphonique lorsque plusieurs voix se superposent. L'histoire de la musique étudie l'évolution des pratiques musicales à travers les siècles et dans toutes les régions du monde. Présente dans chaque société humaine depuis la préhistoire, et probablement même avant l'apparition des premières traces écrites, la musique accompagne l'être humain depuis toujours.
Tout à fait, elle constitue un formidable moyen d'expression personnelle, permettant de transmettre des émotions, des idées et des sentiments. Mais elle est également un puissant facteur de rassemblement à travers les fêtes, les chants, les danses et les célébrations collectives. La musique participe aussi à la construction de l'identité culturelle des peuples. Elle reflète des traditions, des croyances, des valeurs et parfois même l'histoire d'une nation entière.
Comme vous l'aurez compris, qu'elle soit populaire ou savante, ancienne ou contemporaine, la musique a toujours occupé une place essentielle dans la vie des femmes et des hommes. Aucune civilisation n'a échappé à la création de son propre langage musical ou à l'adaptation d'influences venues d'autres cultures. Il est maintenant temps de découvrir les artistes qui ont marqué nos chroniqueurs. Je vais donc laisser la parole aux jeunes chroniqueurs de la radio Déloge afin qu'ils nous présentent les chanteurs et chanteuses qui les inspirent le plus. Donc maintenant, je laisse la parole à Ahmad pour vous présenter une chanson et un chanteur qui l'inspire.
Merci, Aymeric. Donc, moi, je vous propose de parler d'un morceau qui dépasse toutes les frontières, toutes les cultures et toutes les époques. Une chanson qui est devenue un véritable hymne mondial pour la paix. Imagine de John Lennon, sorti en octobre 1971. Regardons d'abord les chiffres et l'impact de ce monument de la musique. Sur les plateformes de streaming comme Spotify, la chanson cumule plus de 600 millions d'écoutes, ce qui est énorme pour un morceau qui a plus de 50 ans. Elle a été vendue à plus de 5 millions d'exemplaires à travers le monde et le magazine de référence Rolling Stone l'a classée parmi les trois plus grandes chansons de tous les temps. preuve de son statut universel. Donc elle est systématiquement jouée lors des cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques, comme par exemple à Tokyo ou à Paris, pour symboliser l'union des peuples. Donc de quoi en fait parle cette chanson au sujet si général ? Imagine, c'est une invitation à rêver d'un monde meilleur. John Lennon nous demande d'imaginer un monde sans frontières, sans religion qui divise, sans pays qui se font la guerre et sans possessions matérielles qui créent de la jalousie ou de la pauvreté. C'est un texte très simple, presque enfantin, mais d'une puissance absolue. Le refrain dit « You may say I am a dreamer, but I am not the only one. » Tu peux dire que je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul. C'est un rappel à l'unité. Si tout le monde partage ce rêve, alors le monde changera. Donc pour finir, je réponds à cette question, pourquoi en fait cette chanson a marqué l'histoire ? Et tout simplement parce qu'elle est devenue la bande-son officielle de la paix. Dès qu'un événement tragique ou une guerre éclate dans le monde, les gens se rassemblent et chantent Imagine. Par exemple, en 2015, après les attentats de Paris, un pianiste s'est installé avec son piano devant le Bataclan pour jouer ce morceau. C'est une chanson qui console et qui rassemble l'humanité quand tout va mal.
Oui, c'est très intéressant. C'est une chanson très intéressante. Et est-ce que tu pourrais nous aiguiller un petit peu sur qui était John Lennon ?
D'accord, Mike. John Lennon, né en 1940 et mort en 1980, est un musicien, auteur, compositeur et militant pacifiste britannique. Il est mondialement connu pour avoir été le fondateur et l'un des leaders des Beatles, le groupe le plus populaire de l'histoire de la musique.
Oui, leader des Beatles, donc oui, c'est très intéressant. Est-ce que tu trouves que John Lennon est un très bon chanteur ?
Oui, bien sûr, parce que il a défendu beaucoup en fait de combats en fait, parce que dans notre monde, on sait bien qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de guerres. Donc par ses musiques en fait, il nous transmet des messages.
Merci beaucoup Ahmad. Maintenant, je laisse la parole à Gabriel pour nous présenter son chanteur.
Bonjour Aymeric. Alors moi aujourd'hui, je vais vous parler de Chester Bennington. Alors Chester Bennington, c'est une figure emblématique du rock moderne, qui est surtout connu comme le chanteur principal du groupe Linkin Park. Sa voix puissante, capable d'exprimer une large gamme d'émotions, a touché des millions de fans à travers le monde. Né le 20 mars 1976 à Phoenix, dans l'Arizona, Chester Bennington a grandi dans un environnement où la musique joue un rôle crucial. Dès son plus jeune âge, il a été influencé par des groupes comme Depeche Mode et Stone Temple Pilots. Sa passion pour la musique a rapidement évolué, le menant à poursuivre une carrière dans ce domaine. Chester a rejoint Linkin Park, fondé par Mike Shinoda en 1999, et le groupe a rapidement gagné en popularité avec la sortie de leur premier album, Hybrid Theory, en 2000. Cet album, certifié disque de diamant, a été acclamé pour son mélange innovant de rock alternatif, de new metal et de rap. Des titres comme In the End et Paper Cut ont propulsé Chester et le groupe au sommet des charts internationaux. Hybrid Theory ne fut pas seulement un succès commercial, mais aussi un phénomène culturel. Il a redéfini les frontières du rock moderne et a influencé une nouvelle génération d'artistes. La capacité de Chester à insuffler une émotion brute et authentique dans ses performances a été un catalyseur de ce succès. Linkin Park a su capturer l'attention d'une audience internationale grâce à son style unique et novateur. Le groupe a su mélanger des genres variés, créant une musique qui résonnait avec une génération entière. Leur succès fulgurant les a amenés à remplir des stades et à influencer un grand nombre d'artistes contemporains. Mais ce qui distinguait Chester Bennington était sa capacité à transmettre des émotions intenses à travers sa voix. Il pouvait passer d'un murmure doux à un cri perçant, captivant l'auditeur à chaque note. Ses paroles, souvent introspectives et personnelles, abordaient des thèmes tels que la dépression, les conflits internes et la recherche de l'identité. Outre Linkin Park, Chester a été impliqué dans plusieurs autres projets musicaux. Il a été le chanteur principal de Dead by Sunrise, un groupe qu'il a formé en 2005 et a également collaboré avec Stone Temple Pilots entre 2013 et 2015. Ces projets ont permis à Chester d'explorer différents styles musicaux et de montrer l'étendue de son talent. Avec Dead by Sunrise, Chester a pu exprimer une facette plus personnelle et expérimentale de sa créativité. Quant à son passage avec Stone Temple Pilots, il a eu l'opportunité de rendre hommage à l'un de ses groupes préférés, tout en apportant sa propre énergie et style à la formation. Chester Bennington nous a tragiquement quittés le 20 juillet 2017, après avoir lutté contre des traumatismes personnels et la dépression. Son enfance a été marquée par des abus et des addictions, des expériences qui ont profondément influencé sa musique et ses paroles. Il fut remplacé par Emily Armstrong en septembre 2024. Mais malgré ses défis, il a réussi à transformer sa douleur en une force créative, touchant des millions de personnes à travers le monde. Son héritage continue de vivre à travers sa musique et ses contributions au monde du rock ne seront jamais oubliées. Chester Bennington restera jamais gravé dans le cœur de ceux qui l'ont écouté et admiré. Son histoire est celle d'un artiste qui, malgré ses traumatismes, a su inspirer des millions de personnes à travers le monde.
Merci beaucoup, Gabriel. Maintenant, je vais vous parler d'un artiste qui m'a vraiment marqué. C'est Bob Marley. Vers la fin des années 1960, en Jamaïque, est né le reggae, dont le style le plus connu est le One Drop. Son représentant le plus célèbre est Bob Marley. Le reggae est lié au mouvement Rastafari qui peut être assimilé à une forme de religion et à un mode de vie. Le reggae a été influencé par d'autres styles tels que le mento, le ska ou encore le rocksteady. Robert Nesta Marley, dit Bob Marley, est né le 6 février 1945 à Nine Mile en Jamaïque et est mort à l'âge de 36 ans le 11 mai 1981 à Miami, aux États-Unis. Des suites d'un cancer. Il était chanteur de reggae, auteur, compositeur, interprète et guitariste jamaïcain. Bob Marley a grandi dans un milieu modeste. Très jeune, il se passionne pour la musique et commence à chanter avec ses amis. Au début des années 1960, il fonde avec Peter Tosh et Bunny Wailer le groupe The Wailers. Ensemble, ils connaissent leur premier succès en Jamaïque grâce à des chansons qui parlent de la vie quotidienne, des difficultés rencontrées par la population et de l'espoir d'un avenir meilleur. Au fil des années, Bob Marley devient la figure la plus connue du reggae dans le monde. Sa musique dépasse les frontières de la Jamaïque et touche des millions de personnes. Ses chansons abordent des thèmes universels comme la liberté, la paix, l'amour, la justice sociale et l'égalité entre les êtres humains. Il utilise sa musique pour transmettre des messages positifs et pour dénoncer les injustices. Parmi ses chansons les plus célèbres, on peut citer « No Woman, No Cry », « Three Little Birds », « One Love », « Could You Be Loved », « Buffalo Soldier » ou encore « Redemption Song ». Ces titres sont encore écoutés aujourd'hui par plusieurs générations et continuent d'inspirer de nombreux artistes. Bob Marley était également un fervent défenseur de l'unité entre les peuples. En Jamaïque, à une époque où les tensions politiques étaient très fortes, il a tenté de rapprocher les différents camps. Lors d'un concert historique en 1978, il a même fait monter sur scène deux dirigeants politiques opposés afin qu'ils se serrent la main devant le public. C'est vraiment extraordinaire. Ce geste symbolique a marqué les esprits et a montré sa volonté de promouvoir la paix. Bob Marley avait un principe. C'était presque un concept de médecine, voire de virologie. Il pensait qu'on pouvait guérir le racisme et la haine en injectant de la musique et de l'amour dans l'existence des gens, mais vraiment la guérir. Un jour, il devait participer à un concert pour la paix. Il y a des personnes armées qui sont venues chez lui et lui ont tiré dessus. Le surlendemain, il est monté sur scène et il a chanté. Une personne lui a demandé pourquoi. Il a dit « Les gens qui essaient de rendre le monde plus mauvais ne prennent jamais de jours de congé, alors comment le pourrais-je ? L'objectif est d'éclairer l'obscurité par la lumière. » Son influence ne se limite pas à la musique. Bob Marley est devenu un véritable symbole de liberté, de résistance et d'espoir. Son image, son message et ses chansons continuent d'être connues partout dans le monde, plus de 40 ans après sa disparition. Aujourd'hui encore, il est considéré comme l'un des artistes les plus importants du XXe siècle. Grâce à son talent, à son engagement et à ses valeurs humanistes, Bob Marley a contribué à faire connaître la culture jamaïcaine à l'échelle mondiale et a laissé un héritage musical exceptionnel. Pour conclure, Bob Marley n'était pas seulement un chanteur, il était aussi un homme engagé qui croyait profondément en la paix, à la solidarité et au respect des autres. Son œuvre continue de transmettre ses messages et c'est pour cela qu'il reste encore aujourd'hui une figure incontournable de l'histoire de la musique.
Eh ben, merci beaucoup Aymeric, c'était très intéressant parce que moi j'aime bien Bob Marley et tu nous as parlé plus de Bob Marley, on a plus d'informations. Mais j'avais une question, en fait pourquoi cette chanson touche-t-elle tout le monde ?
Tu veux dire les chansons de Bob Marley ?
Oui.
Bah, elle touche tout le monde parce que ce sont des chansons assez simples en fait. Il n'y a pas vraiment de particularité instrumentale, bien qu'on utilise toutes sortes d'instruments. En fait, elle relate la vie quotidienne des gens, les problèmes auxquels les gens sont confrontés et comment ils les affrontent. Et Bob Marley arrive vraiment à transmettre son sentiment et ça aux gens.
Et bah, d'accord, merci beaucoup Aymeric.
We're jamming, jamming, and I hope you like jamming too. And the rules ain't no vow, we can do it anyhow. I and I will see you through. 'Cause every day we pay the price, we're the living sacrifice. We jamming till the jam is through. We're jamming. To think that jamming was a thing of the past.
Maintenant, je vais passer la parole à Pierre Daniel pour nous présenter ce qui l'a inspiré.
Bonjour Aymeric, je vais vous parler d'un auteur, compositeur, interprète, danseur, chorégraphe et acteur américain qui s'appelle Michael Jackson. Commençons par sa date de naissance. Michael Jackson est né le 29 août 1958 à Gary, à l'hôpital de Saint-Marie-Mercy, au troisième étage, dans la chambre 207. Michael Jackson est décédé le 25 juin 2009. Je vous expliquerai la cause du décès juste après. Michael Jackson avait fait plusieurs chansons qu'il composa lui-même. Voici ses chansons les plus connues. Billie Jean en 1982, Beat It en 1982, Bad, Smooth Criminal en 1987, Thriller en 1982 et They Don't Care About Us en 1995. Michael Jackson composait ses chansons en commençant par sa propre voix, sans instrument. Il fredonnait des lignes de basse et imitait la batterie ou des mélodies dans un enregistreur, même qu'il pouvait aussi faire du beatbox. Pour la plupart de ses morceaux, il expliquait sa composition note par note à des musiciens de studio, qui eux les interprétaient ensuite. La mort de Michael Jackson est survenue le 25 juin 2009, dans un manoir de Holmby Hills à Los Angeles, à la suite d'un arrêt cardiaque ayant pour cause une intoxication aiguë au propofol. Son médecin personnel, Conrad Murray, a pratiqué sur lui une réanimation cardio-pulmonaire, RCP, sur son lit, en vain. Après un appel au 911 à midi 20, Michael Jackson est pris en charge par des ambulanciers et déclaré mort un peu plus tard au Ronald Reagan UCLA Medical Center. Le saviez-vous? Pour chaque album, il écrivait une centaine de chansons pour à la fin n'en retenir qu'une quinzaine. Il n'est pas l'inventeur du fameux moonwalk. Celui-ci proviendrait d'une mime et acteur français décédé en 1991 qui s'appelait Étienne Decroux. Michael Jackson est le seul artiste à avoir gagné autant de Grammy Awards en une soirée, en 1984. Le clip Billie Jean était le premier clip d'un artiste noir diffusé sur MTV. Et c'est Martin Scorsese qui a réalisé le clip Bad. Le clan Jackson, une famille au talent unique, a marqué l'histoire de la musique. Dirigée par Joseph et Catherine Jackson, elle a vu naître des légendes comme Michael et Janet Jackson. Dans la famille des Jackson, ils sont 8 enfants avec leurs parents Joseph et Catherine. Chaque membre du clan Jackson a contribué à sa manière à un héritage musical exceptionnel. Du génie de Michael à l'influence de Janet, en passant par les talents de Rebby, Tito et Germaine, la famille Jackson a non seulement marqué une époque, mais continue d'influencer la musique et la culture populaire.
Et pourquoi tu penses que l'héritage que nous a laissé Michael Jackson est vraiment important aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'il est vraiment important?
Oui, puisque déjà moi j'aime bien ses chansons et je pense qu'il a marqué l'histoire déjà de l'Amérique et aussi en France.
Pourquoi il a marqué l'histoire? Est-ce que tu penses que ça serait sa voix, sa façon de danser ou peut-être les émotions qu'il transmet ou même toutes ces choses à la fois?
Oui, toutes ces choses à la fois.
Merci beaucoup. Maintenant, je vais laisser la parole à Thaïs pour nous présenter Johnny Hallyday.
Merci, Emric. Johnny Hallyday. Jean-Philippe Smet, dit Johnny Hallyday, est né le 15 juin 1943 à Paris. Et il est mort le 5 décembre 2017 à Marne-la-Coquette.
Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont.
Il a été chanteur, compositeur et acteur français. Durant ses 57 ans de carrière, il s'impose comme l'un des plus célèbres chanteurs francophones et l'une des personnalités les plus présentes du paysage médiatique français. S'il n'est pas le premier à chanter du rock en France, il est dès 1960 le premier à y populariser le genre. Bien qu'il interprète de nombreuses ballades sentimentales et des airs country au cours de sa carrière, le rock reste sa principale référence. Au total, il réalise 80 albums, dont 51 albums studio ainsi que 165 singles. Il totalise 6 disques de diamant, 22 disques de platine, 40 disques d'or et 10 victoires de la musique. Il effectue 184 tournées et donne plus de 3425 concerts, totalisant près de 300 millions de spectateurs avec des prestations à gros budget et effets scéniques. Alors qu'il est atteint d'un cancer de poumon, il effectue sa dernière tournée en juin et juillet 2017, aux côtés de ses amis Jacques Dutronc et Eddie Mitchell, avec qui en 2014 il a formé le trio des Vieilles Canailles.
Ouais, quelque chose de Tennessee. Cette force qui nous pousse vers l'infini. Il y a peu d'amour avec tellement d'envie. Si peu d'amour avec tellement de bruit. Quelque chose en nous est Tennessee.
Quelques anecdotes sur Johnny Hallyday. Avant d'être le plus grand rocker que la France ait connu, le petit Jean-Philippe Smet était danseur classique. « J'ai même été petit rat de l'opéra », avait-il confié à Télérama. Selon une biographie parue en 2012 intitulée « Johnny, l'incroyable histoire », le rocker ne serait jamais allé à l'école. Comme expliqué plus haut, il suivait sa cousine et son mari pendant leur tournée où il était déjà sur scène et occupait le public pendant les changements de costume. Johnny aurait toutefois pris des cours par correspondance.
Est-ce qu'aujourd'hui, Johnny Hallyday est encore aimé des gens selon toi ?
Bah, je pense, parce que ça a été un grand chanteur.
Et du coup, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as présenté Johnny Hallyday ?
J'ai présenté Johnny Hallyday car ma maman m'en parlait beaucoup. Et elle aimait bien ce chanteur, et je sais que je connais une musique de lui, donc voilà.
D'accord, merci beaucoup.
Tourner le temps à l'orage, revenir à l'état sauvage, forcer les portes, les barrages, sortir le loup de sa cage, sentir le vent qui se déchaîne, battre le sang dans nos veines, monter le son des guitares.
Merci beaucoup Thaïs pour cette présentation de Johnny Hallyday, c'était vraiment très intéressant. Je laisse maintenant la parole à Clémence.
Merci Émeric. Aujourd'hui, je vais vous parler de Freddie Mercury. Freddie Mercury, né le 5 septembre 1946 à Stone Town, est un chanteur qui a fait ses débuts de chant en 1958 quand il a commencé sa première formation dans le pensionnat St. Peter's à l'âge de 12 ans. Il est aussi auteur, compositeur, interprète, musicien et producteur britannique.
Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry
Et maintenant, je vais vous énoncer quelques faits insolites sur Freddie Mercury. Il a conçu le logo du groupe surnommé le Royal Crest. Il a écrit « Crazy Little Thing Called Love » dans sa baignoire. Il a déguisé Lady Diana en prostituée et la glissa dans un club gay. Il a enregistré des chansons avec Michael Jackson, mais l'animal de compagnie du roi de la pop, un lama, a interrompu la séance. L'album n'a donc jamais vu le jour. Il faut aussi dire que les deux artistes se sont disputés, car Michael Jackson ne supportait pas que Freddie se drogue tout le temps à la cocaïne. Il avait l'habitude d'appeler ses chats alors qu'il était en tournée, et avait même écrit une chanson pour son favori, Delilah.
Delilah. Delilah.
Il est malheureusement mort le 24 novembre 1991, âgé de 45 ans à Londres, au Royaume-Uni, à cause du sida. Une dernière anecdote à son sujet, à sa mort, Freddie a insisté sur le fait que l'emplacement de ses cendres reste secrète. Et il l'est encore à ce jour. Je vais maintenant vous parler de son groupe anglais nommé Queen, composé de Freddie Mercury, au piano et au chant, Brian May et John Deacon à la guitare et Roger Taylor à la batterie. Le groupe s'est séparé à la mort de Freddie Mercury et il puise ses influences musicales parmi les chanteurs suivants: The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin ou encore David Bowie, avec lequel Freddie Mercury a chanté Under Pressure. Parmi les chansons les plus connues, citons Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now, I Want to Break Free, We Will Rock You, qui sert de pub pour la marque Evian, Another One Beat the Dust, qui sert de la pub pour Dacia, et Radio Gaga.
Donc, selon toi, Freddie Mercury était vraiment important, c'était le pilier de son groupe ?
Oui, je pense, parce que il était l'auteur, donc en général, c'est vrai que il chantait, c'était plus le centre, oui, du groupe, je trouve.
Merci beaucoup Clémence. Maintenant, je laisse la parole à Mila pour nous présenter son artiste.
Bonjour Aymeric, aujourd'hui je vais vous présenter Edith Piaf.
Entraînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevées, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux.
Edith Piaf voit le jour le 19 décembre 1915 à Paris et meurt le 10 octobre 1963 à Grasse à cause d'un cancer du foie. Surnommée la Môme Piaf, elle était une chanteuse de musique hall et de variété à la voix rauque et mélancolique. Personnalité hors norme, elle inspirera de nombreux compositeurs et connaîtra une renommée internationale, malgré de graves problèmes de santé. Edith Piaf fut aussi comédienne au théâtre et au cinéma. À l'automne 1935, Edith Piaf chante dans les rues des chansons du répertoire Fréhel, une célèbre chanteuse de l'époque. En 1936, elle est repérée et enregistre son premier disque, Les Mômes de la Cloche. En mars 1937, Edith Piaf commence sa carrière de music hall à l'ABS de Paris. Elle devient de plus en plus célèbre. En 1946, elle écrit son plus grand succès, La vie en rose. Maintenant, voici quelques anecdotes sur sa vie. À l'âge de 7 ans, Edith est presque aveugle, due à une inflammation de la cornée jamais soignée. Sa mère l'emmène alors sur la tombe de la Sainte Thérèse. Arrivée là-bas, elle se recueille en priant, puis elle ramasse un peu de terre de la sépulture pour l'appliquer sur le front de la jeune fille. Miracle, au bout d'une semaine, l'enfant voit de nouveau. Un jour béni pour Édith Piaf, qui vouera à jamais une véritable dévotion à la petite Thérèse. Louis Leplay, son mentor et père de cœur, a été tué dans son lit d'un coup de revolver. Édith est anéantie. N'est-ce pas lui qui l'a sortie de la rue à l'automne 1935 en lui donnant sa chance au Gerniz, son prestigieux cabaret des Champs-Élysées ? Qui lui a trouvé son nom de scène, la Môme Piaf, parce que cette jeune fille de 1m47 lui faisait penser à un oiseau tombé du nid ? Pour elle, cette mort est une catastrophe, d'autant qu'on la croit mêlée au meurtre. Pendant la guerre, Édith loge à Paris. Elle n'arrête pas sa carrière et va même chanter en Allemagne. Elle ne sera pas jugée après la guerre, car elle a chanté pour les prisonniers français en Allemagne et elle aurait réussi à faire évader des soldats de l'Allemagne nazie. Un soir d'octobre 1947, dans la salle du Playhouse Theatre, le public new-yorkais s'imaginait voir une Française sophistiquée, une vraie Parisienne. Et voilà qu'une petite femme mal embouchée déboule sur la scène de Broadway avec sa robe noire toute simple et ses chansons tristes. Un flop, ce premier concert d'Édith Piaf aux États-Unis. Mais elle ne se décourage pas. Elle se met à l'anglais, se familiarise avec les techniques de la scène américaine et ça paie. L'enfant de Belleville finit par dompter New York grâce à sa voix unique, son magnétisme et cette vie en rose qu'elle interprète en anglais.
Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie.
Merci beaucoup Mila. Je passe la parole à Madame Masternak pour conclure.
Merci Aymeric. Eh bien, ce fut une belle émission. Donc en conclusion, je dirais que nous pouvons dire que la chanson est bien plus qu'un simple divertissement. Depuis des siècles, elle accompagne l'humanité, raconte nos histoires, transmet nos émotions et reflète les espoirs comme les combats de chaque génération. À travers les voix des artistes, les chansons traversent le temps, franchissent les frontières et rapprochent les peuples. Qu'elles parlent d'amour, de liberté, de paix ou de révolte, elles laissent une trace dans notre mémoire collective et participent à l'histoire de nos sociétés. Certaines disparaissent avec leur époque, tandis que d'autres deviennent intemporelles et continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. La chanson est donc un langage universel que chacun peut comprendre, quelle que soit sa culture, sa langue ou son origine. Elle nous rassemble, nous fait réfléchir et nous rappelle ce que nous avons en commun. C'est pourquoi elle occupe une place si particulière dans nos vies et demeure l'une des plus belles formes d'expression artistique.
Merci beaucoup pour cette très belle conclusion. Merci à tous, merci à Man, merci aux chroniqueurs des loges qui nous ont accompagnés tout le long de cette émission. Je vous remercie de nous avoir écoutés sur Bac FM et j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous sur la radio 106.1. À bientôt pour une nouvelle émission de Story d'Histoire.
Merci.